France Musique. Berlin et la République de Weimar. Le 6 février 1919, trois mois après l'armistice qui a mis fin à la Grande Guerre, une assemblée constituante allemande se réunit dans le théâtre de Weimar, la ville des poètes Goethe et Schiller, illustres représentants de l'âme allemande. La ville de Berlin est alors trop agitée. C'est pourtant elle qui va devenir la capitale de la première République allemande. La ville qui va entrer dans la littérature grâce à Alfred Döblin, Thomas Mann ou Bertolt Brecht. Et dans la peinture avec George Grosz et Otto Dix, tous deux nés du mouvement Dada. La République de Weimar agonise en 1929. Celle que l'on aurait pu appeler la République de Berlin, née de la défaite, vit dans la révolution et disparaît dans l'apocalypse. Créative, vitale, fiévreuse, mais surtout menacée de toutes parts. Par sa vitalité démographique, par sa taille, Berlin laisse loin derrière elle toutes les autres villes allemandes. Après sa création en 1920, le Grand Berlin ne compte pas moins de 4 millions d'habitants. Jusqu'en 1923, Berlin est le parfait miroir d'une Allemagne incapable de retrouver la stabilité perdue, secouée par des crises à répétition, insurrections communistes, putsch d'extrême droite, assassinats politiques, inflation galopante. C'est dans ce Berlin, en proie à une agitation quasi permanente, placée sous le signe de l'incertitude, que se manifeste une énergie inégalable dans les mondes artistiques et intellectuels. Berlin est alors aux yeux de l'écrivain Joseph Roth, le symbole de l'histoire allemande, marquée par la déchirure. Fascinante et repoussante, la capitale concentre toutes les tares et toutes les qualités d'un intermède démocratique fulgurant, mais fragile. C'est dans ce Berlin que Marlène Dietrich commence sa carrière de comédienne. Berlin ne compte pas moins de 40 théâtres dans les années 1920. La culture de masse triomphe et de nouvelles scènes augmentent l'offre de spectacles. Les cabarets font également fureur. Le Schall est l'un des plus célèbres. Dans les années qui précèdent la montée du nazisme, le cabaret semble prendre une importance unique. Plus la crise sociale et économique devient catastrophique, plus l'avidité à l'égard des plaisirs, des divertissements les plus scabreux est importante. Le cabaret est alors un refuge et un exutoire. Il accueille aussi bien les ouvriers, la petite bourgeoisie, que l'aristocratie décadente. Il mêle le théâtre aux divertissements les plus vulgaires, aux chansons, à la satire politique. Il offre un spectacle à peu près unique qui à lui seul caractérise alors Berlin. La vie politique fait irruption sur la scène. Les chansons du cabaret et ses figures les plus célèbres font partie de l'horizon quotidien. Les plus grands artistes, Franz Wedekind, Bertolt Brecht, Marx Reinhardt, ont fréquenté le cabaret. On y joue des pièces de théâtre d'avant-garde, on y représente la misère qui sévit à Berlin. On y fustige les responsables. Mais le cabaret est aussi un endroit où l'on cherche à oublier la tristesse de l'après-guerre et les ravages qu'elle a engendrés. De 1914 à 1931, devant un public des plus diversifiés, le cabaret voit se succéder sur les planches tous les phénomènes les plus frappants qui ont marqué l'Allemagne. Expressionnisme théâtral, goût du morbide, érotisme de pacotille, antisémitisme, propagande anti-nazie, tout, absolument tout, s'y rencontre. Phénomène de décomposition sociale, politique, morale, le cabaret reflète toute la crise que connaît alors l'Allemagne. Cette culture de masse si prégnante encourage aussi l'essor du cinéma. Berlin abrite, à Babelsberg, les plus grands studios allemands. De nombreuses salles apparaissent, dont les plus importantes sont liées à l'UFA, la société cinématographique qui domine le marché. Chacune d'elles peut accueillir jusqu'à 2000 spectateurs. Berlin est alors la Mecque du cinéma mondial. Plusieurs réalisateurs prestigieux, comme l'expressionniste Fritz Lang et son film Le cabinet du docteur Caligari, mais aussi Ernst Lubitsch, porté par la comédie, Rudolf Biberach par le mélodrame ou Otto Riffert par la science-fiction. Tous signent d'authentiques monuments de l'histoire du 7e art. Le lancement de la radio est un autre marqueur de cette culture de masse qui apparaît dans le Berlin des années 1920. Son succès est foudroyant. La première radio, la Funkstunage, commence à diffuser le 29 octobre 1923. En moins d'un an, 8 antennes régionales sont créées. Dès 1924, le nouveau média compte 200 000 auditeurs. 4 ans plus tard, leur nombre a décuplé. La technique et la masse s'engendrent mutuellement, écrit alors le psychiatre et philosophe allemand Karl Jaspers.
Wer
Cette culture de la modernité doit beaucoup aux influences américaines qui, sous diverses formes, impriment leur marque au Berlin des années 1920. Dans le domaine de la musique et de la danse, le jazz s'impose comme la musique de son temps. Il existe en effet un rapport étroit entre le jazz et les tendances profondes de la société allemande en quête de repères sous les coups des traumatismes laissés par la défaite, la révolution et l'inflation. Le jazz est le rythme de notre temps, écrit Kurt Weill, le compositeur de l'opéra de Katsu. À l'heure, on crée des musiques que l'on nomme utilitaires, des opéras d'actualité comme Zeitoper. Le Neues Vantage, opéra composé en 1928 par Paul Hindemith, est particulièrement emblématique du Zeitoper. Berlin, dans les années 1920, est au centre de tous les regards européens. Le courant artistique du Bauhaus, qui englobe l'architecture et le design, mais aussi la danse, le costume, la photographie et les arts plastiques, défend sa formidable utopie d'unir l'utile et le beau. Berlin est la symphonie d'une grande ville, aux yeux du cinéaste Walter Ruttmann. Elle est aussi le refuge pour les élites russes, comme l'écrivain Vladimir Nabokov, qui ont fui le bolchevisme. Berlin est alors le siège de tout un réseau d'associations, de partis politiques, de journaux, de maisons d'édition et de lieux d'une intense sociabilité russe avec ses cafés, ses restaurants, ses théâtres. La présence russe à Berlin s'explique par le philo-communisme d'une partie de l'élite intellectuelle et par l'intérêt pour la culture d'avant-garde qui émerge à l'époque en URSS. De nombreux écrivains ou artistes russes de tous horizons séjournent ainsi à Berlin. Le cinéaste Eisenstein, le metteur en scène Meyerhold, le peintre Malevitch, mais aussi des créateurs d'Europe centrale comme le bulgare Elias Stanetti et le compositeur viennois Arnold Schönberg. Pourtant, cette culture transgressive de la capitale allemande est loin de faire l'unanimité. Plus Berlin se montre provocante, plus le clivage entre modernité et réaction se creuse. Car pour ceux qui ont connu l'Empire et la Grande Guerre, cette modernité est tout sauf homogène. Berlin, dans la République de Weimar, est autant un aimant qu'un repoussoir. Derrière les revues et cabarets de l'Amiralsplatz ou du Métropole Theater, on voit depuis Munich la décadence dans un pays où avortement et homosexualité sont interdits. Car Berlin ne cache plus son homosexualité masculine et féminine. Des milliers de professeurs, d'industriels, d'hommes politiques détestaient les nazis, mais n'aimaient pas la République. Ils apprennent à vivre avec elle, mais n'y adhèrent pas. Le viennois Stefan Zweig dresse dans Le Monde d'hier un portrait au vitriol d'une ville corrompue et dépravée. Le philosophe Martin Heidegger, quant à lui, refuse et condamne la modernité. Il n'hésite pas à dénoncer dans Berlin la Babylone moderne. Il glorifie alors l'action du national-socialisme qui pense avec son sang. Modernisme et réaction se confrontent. La République de Weimar a plus de contradicteurs que de défenseurs. Une grande partie de l'université reste imperméable à la modernité, repliée sur un conservatisme très fort, hérité de l'aristocratie et transmise aux classes bourgeoises, l'université est l'une des premières grandes institutions conquises par les nazis. Au sein de la République, deux Allemagnes irréconciliables se font face. Les nazis, farouches opposants à la révolution culturelle weimarienne, réussissent à trouver des mots pour accompagner le passage de la société de classe à la société de masse. En 1933, les lumières de la République de Weimar s'éteignent. La nuit noire du nazisme tombe alors sur l'Allemagne.
À réécouter sur francemusique.fr.